Eh bien, André Richer, je suis un ancien contrôleur général des armées qui avait commencé sa carrière dans l'armée comme pilote dans l'armée de l'air. Ensuite, je suis allé vers des postes divers et variés dans l'administration. Et finalement, en 1999, j'ai pris la tête d'une petite société immobilière qui était la Société Nationale Immobilière, qui est devenue CDC Habitat, une très grosse entreprise de 900 000 logements détenus par la Caisse des dépôts. Et c'est là d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de nouer des relations amicales dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, puisque nous avons racheté l'habitat minier du Nord-Pas-de-Calais. Voilà.
Alors cet ensemble d'immobilier dans le Pas-de-Calais, il est important, mais actuellement on sent par rapport notamment aux rénovations des difficultés à tenir ça dans les délais et avec les moyens dont on dispose. Oui. Et puis on peut dire que la conjoncture est quand même complexe.
C'est clair et elle risque de devenir de plus en plus complexe à l'avenir parce que la situation des finances publiques est quand même compliquée alors qu'il y avait beaucoup de financements d'origine étatique, directe ou indirecte, qui provenaient. Et d'autre part, c'est vrai qu'aussi que le contexte géopolitique fait que l'État est bien obligé de prendre en compte d'autres considérations, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Bon, ceci dit, une bonne partie quand même du chemin a été réalisée. De nombreuses résidences ont été réalisées. Ce sur quoi, sans doute, maintenant, il faudrait mettre l'accent, c'est préparer les générations suivantes. C'est-à-dire qu'en gros, on peut résumer les choses en disant le bassin minier, c'est une espèce de métropole bis, seconde métropole. Et c'est une métropole horizontale, évidemment, avec un conglomérat d'habitat, etc. Et donc, tout le problème, c'est de préparer le renouvellement des générations. C'est-à-dire qu'on a encore des générations, évidemment, qui ont connu le bassin minier dans son activité, etc., et qui sont attachées, légitimement d'ailleurs, à la fois à l'habitat, à leur mode de vie. Bon. Mais l'avenir du bassin minier, maintenant, c'est de devenir quelque part le vase d'expansion de la métropole lilloise. C'est-à-dire que la chance ici, c'est l'espace qui est abondant, le terrain qui n'est pas cher, et donc la possibilité de développer un habitat de qualité, mais tourné vers des populations qui travailleront pour partie au moins ailleurs. Il faut certes diversifier les activités, mais il faut aussi diversifier l'offre d'habitat. Et ça veut dire qu'il faut à la fois rénover, ce qui s'est fait beaucoup, mais il faut aussi démolir. Et il faut reconstituer un habitat différent parce qu'il est clair que des jeunes générations auront d'autres références, d'autres critères. Et en particulier, il y a de plus en plus de jeunes qui souhaiteront quand même assez tôt s'engager dans des processus d'accession à la propriété. Bon, certains peuvent accéder à la propriété sur le parc rénové, mais je pense que ce qui est important, c'est d'attirer de nouvelles catégories. Et le dernier point, c'est que pour que tout ça fonctionne, il faudra quand même se poser la question de la mobilité, c'est-à-dire de la connexion cette seconde métropole à la première. Voilà.
Donc cette mobilité, vous la voyez dans ce sens-là, et dans l'autre sens, on peut imaginer aussi qu'un jour, il y ait dans ce bassin minier des gens capables de remonter des entreprises, de créer de l'économie.
Bien sûr, mais c'est même nécessaire, c'est même indispensable, mais ça n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que de toute façon, pour renouveler le peuplement du bassin minier, il faut certes, comme je le disais, diversifier les activités, créer de l'entreprise. C'est d'ailleurs, il y a des bases. Hein. Et puis il y a une tradition industrielle, ça c'est très important, malgré tout, qui existe. Mais en même temps, il faut aussi penser le raccordement à Lille, parce que, comme toutes les grandes métropoles régionales, la métropole lilloise se heurtera à des difficultés de densification, à des difficultés de transport collectif, et voilà. Mais le point critique, c'est le raccordement. Et pour ma part, je pense que les solutions du type tramway et autres sont de bonnes solutions parce que ça permet d'assurer une régularité à peu près certaine des liaisons. Et en même temps, c'est une liaison qui a pour effet de structurer l'espace, c'est-à-dire que ça rend visible les axes de transport, ça rend visible les zones urbanisées, etc. Et donc je pense que c'est vraiment majeur, c'est un élément majeur, mais je pense que ça finira par se faire. J'aurais aimé que ça se fasse plus vite.
Dans cette métropole, on va dire lensoise, je ne sais pas si on peut dire que Lens serait un phare.
Je ne sais pas si c'est Lens, je ne sais pas si c'est Arras, je ne sais pas si c'est Douai, parce que Voilà, Douai aussi a joué un rôle important.
Donc dans cet ensemble, il y a beaucoup de bâtiments, des immeubles où une partie de, on va dire, de l'activité est très réduite.
Oui, oui, bien sûr, et donc ça, mais c'est un problème qui se pose à l'échelle de la France entière. Il faudra travailler sur la reconversion en termes techniques d'actifs immobiliers pour lesquels il faut trouver d'autres usages. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on n'arrive pas à trouver un usage, il faut vraiment se poser la question, par exemple, de faire du logement, par exemple, de faire de l'accueil de personnes âgées, de l'hôtellerie bon marché, etc. Il faut diversifier l'offre. Voilà.
C'est vraiment le moment en plus.
C'est le moment, mais c'est le moment à l'échelle de la France. Et en particulier dans les grandes métropoles. Vous savez qu'en Ile-de-France actuellement, il y a 6 millions de mètres carrés de bureaux vacants qui ne produisent rien, aucun loyer, etc. Ça ne peut pas durer. Ça à côté que les projections à 2 ans sont plutôt de l'ordre de 8 à 10 millions. Et après, on ne sait pas, ça peut monter à 20 millions de mètres carrés vacants à reconfigurer. Donc tout ça, on est à la veille d'une grande révolution urbaine que les gens ne perçoivent pas, mais qui est majeur. Il y a aussi des centres commerciaux qu'il faudra transformer, enfin densifier avec de l'habitat, créer des micro-quartiers, etc. Donc il y a un énorme chantier devant nous. Mais je ne suis pas sûr d'en voir le bout.
Est-ce que taxer les propriétaires de locaux inhabités, ça peut faire partie des solutions ?
Moi, j'y suis très attaché parce que je pense qu'un actif immobilier à finalité économique, il doit produire des richesses. S'il ne produit pas des richesses, il faut en tirer les conclusions au bout de 2 ou 3 ans, il ne remplit pas son rôle. Et donc il faudra surtaxer les actifs inutilisés, inemployés, de toute nature, que ce soit les commerces, que ce soit les bureaux, etc., pour inciter les propriétaires à réduire la valeur de leurs actifs de telle manière que réinvestir dessus vaille la peine. Aujourd'hui, cette valeur théorique des actifs est encore trop élevée. C'est ça qui freine les opérations de transformation. Voilà, je ne suis pas un dirigiste, mais ce que je pense, c'est qu'il est indispensable que l'État envoie des signaux. Et le signal consistant à mettre en place une fiscalité progressive sur la vacance des espaces, c'est indispensable.
Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue, en tout cas à Lens, à Liévin, ici.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci, ça me faisait plaisir de revenir parce que je me suis beaucoup occupé du sujet quand j'ai négocié la reprise du patrimoine des Houillères. Et puis j'étais attaché à toutes ces idées, j'en ai souvent parlé avec Daniel Percheron. Et je pense que c'est lui qui avait l'idée de la seconde métropole. Je pense que c'était l'idée importante parce que qui dit seconde métropole dit d'une part mixité de peuplement et mixité des usages et d'autre part projection vers de nouvelles générations, c'est-à-dire vers la transformation du territoire. Et ça, c'est fondamental.